Studio Tamani, voici les informations en français.
Exactement 18h dans ce studio, même heure à Koro et à Massina. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal dont voici les grandes lignes. CAN Maroc 2025, le Mali connaît ses adversaires depuis hier. Les Aigles seront en compagnie du pays hôte de la Zambie et des Comores. Pour des chroniqueurs sportifs, ce groupe est jouable pour les Aigles. Plus que quelques heures avant que les pays de l'AES ne cessent d'être membres de la CEDEAO, à Bamako et à l'intérieur du pays, les avis divergent sur cette décision qui prend effet demain 29 janvier 2025. Le dossier de la semaine porte sur l'acte de mariage religieux. Ce document a-t-il la même valeur que celui de l'état civil? La réponse dans un instant à la présentation. Adama Amadou Haïdara, la mise en onde est assurée par Adjaratou Traoré. Le tirage au sort de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations a été effectué hier lundi à Rabat au Maroc. Le Mali hérite du groupe A en compagnie du Maroc, pays hôte, de la Zambie et des Comores. Pour des chroniqueurs sportifs, le Mali loge dans le groupe de la mort et le sélectionneur des Aigles doit se mettre au travail dès maintenant. Quant au public sportif, les avis sont divers. Un reportage signé Oumar Ouigalo.
Les 24 nations qualifiées pour la phase finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique connaissent désormais leurs adversaires. Les Aigles du Mali sont à la 10e participation consécutive à la phase finale et héritent l'un des poules la plus difficile. Pour Adama Maïga, journaliste sportif, bien que la poule du Mali semble compliquée, la qualification des Aigles au second tour est possible.
Quand on regarde un peu la performance des Aigles du Mali, c'est un peu inquiétant en toute honnêteté. Après le Maroc, normalement, les Aigles doivent tirer les épingles du jeu pour pouvoir quand même sortir de cette poule. Après ce tirage, Tom Saint-Foot doit travailler et revoir beaucoup son effectif pour pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce groupe-là.
Les réactions du public sportif sont mitigées sur ces tirages. Si certains sont sceptiques quant à la qualification du Mali pour les huitièmes de finale, d'autres sont confiants.
On part favori dans cette poule. Un pays organisateur ne nous a jamais battu à match de poule. Je suis très confiant.
Je sais que ça ne sera pas facile. Le Mali va se qualifier.
On peut même dire que c'est une poule de la mort. On n'est pas tellement confiant, mais ça peut aller.
C'est une poule un peu compliquée. Il faut être présent et il faut être très solide aussi.
Pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les Mali entrent en lice le 22 décembre 2025 contre la Zambie.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les travaux de la commission de rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, mis en place depuis le 9 janvier dernier par le décret présidentiel, ont démarré ce matin au Centre international de conférence de Bamako. Cette commission de 26 membres, dont le président, devra s'atteler à transformer l'avant-projet de la charte en projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Les experts répartis en deux commissions de travail ont deux mois pour produire un document final. Ousmane Issoufi Meïga, président de la commission de rédaction du projet, au micro de notre reporter Moussa Mali Sissoko.
Le président de la transition a mis en place une commission de rédaction. Cet avant-projet fut réalisé par des experts maliens et ça lui a été soumis. Et une commission a été mise en place. C'est l'objet de notre rencontre de ce matin pour transformer cet avant-projet en projet. Donc des experts ont été commis qui vont travailler pendant un certain moment pour proposer un document consensuel qui permette au Mali d'avancer dans tous les secteurs de la recherche de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Cette fois-ci, le président a élargi à ce qu'un certain nombre de ministres participent à la rédaction de cette charte afin qu'ils puissent nous éclairer sur la vision du gouvernement.
On l'a annoncé dans les titres, les pays de l'Alliance des États du Sahel cesseront d'être membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à partir de ce 29 janvier 2025. Des citoyens interrogés à Bamako, Sikasso, Bafoulabe, Yoroso, Tombouctou, Gao, encore Bankas sont partagés sur cette décision historique. Si certains saluent ce retrait, d'autres craignent ses conséquences, notamment la libre circulation des personnes et de leurs biens. Des réactions collectées par Moussa Agmahaha avec le concours de nos correspondants.
Vraiment, je leur donne parfaitement raison. Parce que la CEDEAO, ce n'est pas pour l'Afrique, hein, en réalité.
Par rapport au retrait des trois pays, les pays de l'AES, vraiment, moi, je salue la décision. Parce que qui connaît vraiment l'organisation de la CEDEAO, c'est une organisation qui n'est pas vraiment indépendante.
Bon, pour moi, c'est une bonne affaire. Parce que quand tu es dans une organisation qui ne fait pas ton affaire, tu vas aller chercher ailleurs.
Sortir de la CEDEAO n'est pas un choix stratégique. Nous ne pouvons pas parler d'intégration africaine quand on quitte un groupe de 15 pour être 3. L'AES pouvait être créé tout en restant membre de la CEDEAO pour préserver la libre circulation des personnes et des biens.
Si on a un pays côtier parmi nous, je ne vois même pas d'inconvénient.
Je trouve que ce retrait, c'est très tôt pour nous aujourd'hui, pays du Sahel.
La journée internationale de protection des données à caractère personnel est célébrée ce mardi 28 janvier 2025. Au Mali, cette journée intervient dans un contexte où de nombreuses personnes sont de plus en plus victimes d'arnaques sur les réseaux sociaux. Des données de certains internautes sont volées. Afin de protéger ces données et éviter d'être victimes de vol, des experts en la matière conseillent aux internautes de le rejet des cookies sur les sites. Abdoulaye Guindo, journaliste et coordinateur de la plateforme Bembéré, est joint par Assitou Kanté.
Lorsque vous allez sur un site, ils vont vous demander d'accepter les cookies ou pas. Parce que les cookies permettent de collecter vos données à caractère personnel. Donc il faut toujours chercher à connaître d'abord les paramétrages du cookies. Si les cookies peuvent être rejetés, vous les rejetez avant d'aller sur le site. Si les cookies sont obligatoires et que vous n'avez pas de choses importantes à faire sur le site, il ne faut pas accepter, quitter le site et aller sur un autre site qui autorise le paramétrage. Mais ce qui est plus dangereux pour les internautes, c'est l'hameçonnage, c'est-à-dire le phishing. C'est-à-dire qu'il y a des personnes malveillantes qui vont vous envoyer des liens accompagnés des texte attrayant. Ce texte-là, par exemple, dit que des iPhones sont mis en jeu ou bien votre page Facebook est en phase d'être supprimée par Facebook pour avoir violé les règles. Or, il se trouve que derrière, ce n'est pas des messages de Facebook, c'est juste des arnaqueurs qui vous envoient des liens malveillants.
À Koro, les enseignants ont décrété depuis ce lundi 27 janvier 2025 un arrêt de travail pour non-paiement des salaires du mois de janvier. Selon les responsables des syndicats de la synergie locale des enseignants, la reprise ne sera effective qu'après paiement intégral des salaires du mois de janvier 2025. Trois personnes ont été tuées par des hommes armés non identifiés à Kolongo-Bozo, commune de Kolongo, dans le cercle de Massina. C'était dans la nuit du samedi à dimanche 26 janvier 2025. Ce lundi 27 janvier 2025, des hommes armés non identifiés sont revenus dans le village. Ils sont repartis avec 8 enfants. La situation a créé la panique au sein de la population. Des sources locales rapportent que plus de 100 personnes ont quitté les lieux pour se réfugier dans les villages environnant.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Depuis 2011, le mariage religieux est reconnu par l'État malien à travers l'article 280 du Code des personnes et de la famille. Et grâce à la modification de certaines dispositions de cette loi en 2018, l'acte de mariage religieux octroie désormais les mêmes droits que celui offert lors du mariage d'État civil, même si les deux documents exigent des procédures administratives différentes. Mais malgré cette reconnaissance du mariage religieux par la loi, beaucoup de personnes ignorent toujours ces informations. Les détails dans ce dossier réalisé par Issa Oumar Togola.
Comme beaucoup d'autres femmes en attente de la célébration de leur mariage civil, sa fille Sidibé s'inquiète pour l'avenir de son foyer 7 ans après la célébration de son mariage religieux. Aujourd'hui mère de 2 enfants, elle s'interroge sur la valeur de l'unique acte de mariage religieux qui la lie à son mari lorsque les procédures administratives ne sont pas respectées.
Ça fait vraiment longtemps qu'on n'évoque plus mon mariage civil, alors que mon époux et moi avions convenu cela. C'est pourquoi j'ai accepté de déménager chez lui après notre mariage religieux, car j'étais enceinte. Il m'avait dit qu'on allait célébrer le mariage civil après mon accouchement. Et maintenant, il n'en parle plus. Je commence à craindre cette union.
Des préoccupations certes justifiées, mais selon Alassane Ba du Centre islamique de formation et de documentation, l'acte de mariage religieux joue aujourd'hui le même rôle que celui octroyé par l'officier d'état civil.
Le document qui est fait dans la mosquée, il est fait à la lumière du document établi dans l'administration. Ce sont les copies des témoins, l'engagement des deux époux. On transmet ces documents-là à la mairie et au tribunal. Ça rejoint le droit administratif. Et en cas de divorce aussi, ce sont les lois qui sont en vigueur qui seront appliquées.
Par contre, dans la religion chrétienne, l'octroi de cet acte de mariage demeure facultatif et n'est délivré que par quelques églises. C'est ce que nous apprend le pasteur Bamba Kone, qui précise cependant que l'obtention de l'acte d'état civil est obligatoire.
Le certificat délivré n'a aucune valeur juridique, d'autant plus que l'acte en question n'est ni institutionnel. Notre église, c'est-à-dire l'église chrétienne évangélique du Mali, s'en tient à l'acte d'état civil.
Ces propos concordent avec les explications données par le juriste Ali Kola Koïta. Il rassure que les insuffisances dont souffraient les actes de mariage religieux ont été corrigées par le texte en 2018. Par conséquent, les couples ont le choix d'acquérir l'un ou les deux actes s'ils le souhaitent.
Le mariage religieux est une des formes de mariage reconnues par le législateur en République du Mali, qui produit les mêmes effets que le mariage célébré par l'officier d'état civil lorsque les exigences légales ont été respectées par l'imam ou par l'autorité qui est en charge de célébrer le mariage.
Malgré cette avancée majeure dans la valorisation des actes de mariage religieux, la formation des autorités chargées de célébrer ce mariage et la sensibilisation des citoyens demeurent des défis à relever, concluent les juristes.
Et à présent, nous recevons Sékou Gadjigo pour l'introduction du Grand Dialogue de ce soir. Bonsoir Sékou, quel sujet sera abordé dans le Grand Dialogue aujourd'hui?
Bonsoir Adama Armandou Aïdara. Polémique autour de la publication du chronogramme électoral, c'est le sujet du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Pour en parler, nous recevons Makam Marie, secrétaire à la communication du Parti Elema, Cheikh Oumar Togola, trésorier du Parti Fusil Mali, et Madame Samake Fatoumata Traoré, spécialiste des questions de gouvernance et de développement. Le débat sera en langue nationale bamanankan.
Merci Sékou et bon débat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Rendez-vous donc demain à partir des 8h sur nos radios partenaires. Bonne soirée à tous. Quarantaine chez les parents après l'accouchement, quelle signification pour les femmes? Des éléments de réponse dans ce numéro du magazine « Toutes les femmes du Mali », une réalisation de Fatia Tara.
L'essence de cette pratique ancestrale varie selon les milieux ou les communautés. À Gundam, région de Tombouctou, les raisons avancées par la traditionnaliste Koïta Oumou Khalil à ce sujet sont relatives au respect de la sacralité des relations entre une fille et sa mère biologique.
C'est une pratique de chez nous. Elle évite à la femme d'exposer certaines de ses situations déshonorantes liées à ses malaises et autres sensations devant sa belle famille, car la période d'accouchement est très délicate.
Pour Salimatou Idrissa, une autre gardienne des traditions résidant à Gao, la quarantaine chez les parents après l'accouchement est une pratique ancienne à Gao. Elle vise à donner à la nouvelle mère l'occasion de se reposer et de se faire un relooking après avoir donné naissance, cela avec l'appui de sa maman.
Vous savez, quand une femme accouche, elle fait face à beaucoup de situations comme la fatigue, l'affaissement du corps et beaucoup d'imperfections de la peau. Le temps qu'elle fait chez les parents lui permet de bien récupéré avant de rentrer.
Au nord, tout comme au sud, les femmes continuent d'observer cette tradition. C'est le cas de Oulematou Djaguraga, habitant à Kay. Elle affirme que rester chez sa maman après l'accouchement a été bénéfique et reposant pour elle.
Quand ma grossesse arrive à terme, je pars chez ma maman. J'accouche et je fais 40 jours là-bas. C'est une pratique importante. Elle sert à initier la nouvelle maman par rapport à comment bien prendre soin d'elle et de son bébé.
En plus de ces aspects s'ajoutent d'autres aussi importants. Selon la traditionnaliste Oumou Kouyaté, elle évoque les paramètres de l'espacement des naissances. Pour Madame Kouyaté, les congés de maternité chez les parents permettent à la femme d'éviter de tomber enceinte automatiquement après l'accouchement.
Certaines femmes, quand elles accouchent, rentrent dans une fertilité plus accrue à cause de leur état. Elles deviennent donc fragiles et exposées. Beaucoup tombent enceintes quelques temps après l'accouchement, surtout quand elles sont à leur première grossesse. C'est pourquoi la société a initié cette période de 40 jours pour isoler la femme.
Qu'elle puisse retrouver sa forme.
Que pensent donc les hommes de cette pratique? Certains la cautionnent, d'autres la jugent inutile et révolue. C'est le cas de ces hommes trouvés dans un grain autour d'Ité à Gao.
Combien je vous dois?
Moi, je ne vois pas d'importance d'envoyer la femme chez ses parents après l'accouchement. Cela est une perte de temps.
Cette pratique éloigne la femme de ses enfants et son mari. Je pense qu'elle n'a rien d'intéressant.
Bon, moi, je pense que vraiment, aller passer les quarantaines chez eux, ce n'est pas un problème. D'autant plus que c'est quelque chose auquel on s'est beaucoup habitué.
Selon d'autres, ces phénomènes déstabilisent l'ordre et l'harmonie d'une famille pour un bon moment. Pour ces chefs de famille, cette absence de la mère peut affecter les enfants qui se sentiront seuls.
À chaque fois qu'une femme part accoucher chez ses parents, elle est obligée de laisser ses enfants derrière elle. Le problème est que les enfants seuls à la maison se sentent abandonnés et dépaysés.
Cependant, force est de reconnaître que cette pratique ancestrale est menacée de disparition, selon beaucoup de Maliens. Cela à cause de la mondialisation et du nouveau mode de vie des couples hors de la grande famille.